Les Canuts, deuxième partie, chapitre 6. Vers la fin d'avril, une après-midi de dimanche, Pellegrin, plus correct que jamais, se dirigeait vers le quai d'Orléans. Il allait jouer son va-tout. Dans les soirées du carnaval, il avait plusieurs fois rencontré Mademoiselle Marthe, déjà très entourée et très fêtée. Les mères prévoyantes lançaient leur fils vers cette héritière de 17 ans, qui, avec sa grosse dot, ne resterait pas longtemps à marier. Elle jetait des jalons pour plus tard. Pellegrin ne s'était pas montré le moins empressé. Mais en travaillant pour lui, il n'avait pas perdu de vue les jeunes gens qui papillonnaient autour de la jeune fille. Dans le nombre, il en avait remarqué un dont la candidature lui avait paru assez sérieuse pour provoquer sa méfiance. C'était Johannes Clairin, le fils d'un gros marchand de soie bien connu sur la place. Un grand garçon de 26 ans, blond et rose, avec des yeux bleus et une taille de cuirassier, qui avait plus d'éducation que d'esprit et plaisait dans le monde par un caractère liant et une gaieté communicative. Mademoiselle Marthe, qui adorait la danse et aimait à être amusée, avait semblé ravie de ce joyeux et infatigable cavalier, toujours prêt à se plier aux fantaisies de ses danseuses avec autant de douceur que de bonne grâce. Mais Pellegrin ne se fût pas alarmé de ses petits manèges s'il n'avait constaté, depuis la fin du carnaval, des relations plus fréquentes entre les deux familles. Deux fois, il avait trouvé Johannes Clairin en visite chez Madame Jacquemin. Et le dernier dimanche, pendant la musique sous les tilleuls de Bellecour, par un clair soleil de printemps qui faisait éclore les feuilles nouvelles, il avait aperçu, dans la foule endimanchée, M. Jacquemin et M. Clairin marchant côte à côte, suivis du grand Johannes faisant l'aimable avec ses dames. Ce grand dadais allait-il lui couper l'herbe sous les pieds ? Les 12 années que Pellegrin avait passées chez M. Jacquemin n'auraient-elles servi qu'à préparer une position à ce godelureau? Cela ne pouvait être. Sa jalousie lui faisait voir des choses qui n'existaient pas. Mais c'était un avertissement. Ce qu'il redoutait pouvait devenir une réalité s'il tardait encore à se déclarer. Ah, il fallait brusquer la situation. La fortune était aux audacieux. D'abord, il avait songé à faire présenter sa demande par un tiers. Mais qui aurait-il choisi? N'avait-il pas rompu avec tous ses parents? D'ailleurs, l'un était serrurier, l'autre canu, un troisième cabaretier. Aucun n'était présentable. Mieux valait les laisser ignorer. Puis il dirait, lui, des choses auxquelles un intermédiaire n'aurait point songé. Il saurait faire valoir ses services. À mesure qu'il approchait de la maison, il devenait nerveux et ralentissait le pas pour préparer ses phrases. Mais il ne trouvait rien qui le satisfît. « Bah, ça viendrait tout seul !» Il monta. Un instant, il eut peur de ne trouver personne. Le hasard le favorisa. Au premier coup de sonnette, la femme de chambre vint ouvrir et introduisit le visiteur dans le cabinet de son maître, une petite pièce sobrement meublée et d'un confortable qui contrastait avec le luxe pesant du salon. Pellegrin attendit debout, s'occupant à examiner sur le mur un portrait en pied de Louis-Philippe, tissé par Carquillat, un tour de force du métier. Au bout de 5 minutes, le pas de M. Jacquemin résonna dans le vestibule. Le fabricant ouvrit brusquement. « Vous avez à me parler, Pellegrin ? Je ne vous ai pas revu hier soir, avant de quitter le magasin. Est-ce que par hasard, les teinturiers ne pourraient pas nous rendre nos soies pour jeudi ? Ce serait grave. Vous savez que le temps presse. Mais asseyez-vous donc. » Un peu déconcerté, Pellegrin répondit. « On pourrait, au jour convenu, livrer la marchandise au commissionnaire. Mais c'était d'une affaire bien différente qu'il désirerait l'entretenir. » Ce début mystérieux intrigua M. Jacquemin. « Ah, voyons, » dit-il. Le commis continua. « Il y aurait 12 ans, au prochain inventaire, qu'il était entré dans la maison. Pendant ces 12 années, il avait travaillé de toutes ses forces, de tout son courage. Non seulement il avait rempli son emploi de façon à ne pas encourir de reproches, mais encore, chez lui, la journée finie, il avait occupé ses loisirs à acquérir les connaissances qui lui manquaient. Il ne savait pas l'anglais, il l'avait appris. Il avait décomposé à la loupe toutes sortes de tissus, étudié tous les montages, recherché toutes les améliorations à apporter au tissage des étoffes. Bref, il croyait pouvoir dire qu'il connaissait son métier à fond et il lui semblait qu'il pourrait faire un fabricant tout comme un autre. M. Jacquemin le regardait avec étonnement, ne sachant où il voulait en venir, et hochait la tête par intervalles en signe d'assentiment. Le moment critique était venu. Pellegrin se mit à dire très vite, sans regarder en face. Monsieur, je n'ai pas de fortune, mais j'espère m'en faire une par mon travail. J'ai du courage, les difficultés ne m'effraient pas. Mais, monsieur, il est un bonheur qui centuplerait mes forces et me ferait considérer comme un jeu les plus pénibles entreprises. Et ce bonheur, il est en votre pouvoir de me l'accorder. Veuillez m'excuser si j'ose faire moi-même cette demande. Je viens solliciter l'honneur de devenir votre gendre. » Et les yeux à terre, anxieux, il attendit. M. Jacquemin demeura stupéfait. Certes, il n'avait jamais pensé à donner sa fille à son commis. Il comprenait maintenant pourquoi celui-ci faisait à sa femme de si fréquentes visites. Elle les avait bien accueillies, trop bien peut-être, et Pellegrin avait pris, sans doute, ses politesses pour un encouragement. Cette demande, à brûle-point, était diablement embarrassante. Après tout, parce qu'on avait un bon employé, on n'était pas obligé de lui donner sa fille. Puis, il songea qu'il ne savait rien de la famille, ni de la vie privée de Pellegrin, et prit le parti de lui donner une réponse évasive. « Mon cher ami, » répondit-il lentement en écoutant ces mots, « je n'ai jamais parlé de mariage à ma fille, et je ne sais quelles seraient ses dispositions à cet égard. J'ignore également si elle a une inclination. Elle est si jeune encore. Néanmoins, je ferai part de votre demande à Madame Jacquemin. En ce qui me concerne, je vous tiens pour un employé sérieux, travailleur. Et, quoi qu'il arrive, je fais des vœux pour que vous vous fassiez une position. Dans tous les cas, je ne vous laisserai pas longtemps en suspens. Sous peu de jours, vous serez fixé. » Sans un mot de plus, le fabricant se leva pour donner congé au jeune homme et le reconduisit jusqu'au palier. Pellegrin salua profondément, puis descendit l'escalier comme un homme ivre, se tenant à la rampe. Il retombait dans une désespérante incertitude. Jusqu'à présent, on n'avait pas pensé à lui. On l'avait reçu parce qu'il était mieux élevé que les autres commis. Mais on était loin de s'attendre à sa demande, qui avait paru surprendre beaucoup M. Jacquemin. Son orgueil était profondément froissé. Ah, ces parvenus ne connaissaient donc que le poids de l'argent. Il ne tenait aucun compte de l'intelligence et des services rendus. Au sortir de l'allée, il aspira longuement une bouffée d'air frais et, la poitrine oppressée, s'éloigna par le quai de la Saône, encombré de gens endimanchés, de familles à la promenade avec des enfants qui se pourchassaient et se jetaient dans les jambes des passants. D'un pas incertain, il regagna péniblement sa chambre, rue Désirée. Jamais les trois étages ne lui avaient paru si durs à monter. En entrant, il jeta son chapeau sur son lit et, en proie à un immense découragement, se laissa tomber dans son vieux fauteuil. Jusqu'au soir, M. Jacquemin ne souffla mot de la démarche de son commis. Il dit simplement que Pellegrin était venu le voir. Ce ne fut qu'à la fin de la journée, dans l'intimité du tête-à-tête, qu'il apprit à sa femme le but de cette visite. Madame Jacquemin n'avait pas encore songé à marier sa fille. Cependant, ne connaissant de Pellegrin que les dehors brillants qui l'avaient séduite, elle fut moins surprise que son mari. « Ce jeune homme est bien élevé, » dit-elle. « Il a de l'esprit, n'est pas mal tourné. Mais apparemment dans une position de fortune assez modeste. » « Des plus modestes sans doute, » répondit M. Jacquemin. « D'ailleurs, je ne sais rien de sa famille. À quel propos m'en serais-je occupé? Lorsque je le pris chez moi, ce fut sur la recommandation du curé défunt de Saint-Nizier, qui me le donnait comme un excellent sujet. Il est devenu, en effet, un employé laborieux. Je n'allais pas en demander davantage. Il n'a plus que sa mère, si j'ai bonne mémoire. Une femme qui ne voit personne, je suppose. Elle ne m'a jamais fait de visite. Monsieur Pellegrin ne m'a parlé d'elle qu'une ou deux fois, très discrètement. Oh, ces gens-là doivent appartenir à la très petite bourgeoisie. J'en aurai bientôt le cœur net, car je ne veux pas le laisser languir, ce pauvre garçon. Chacun a son amour propre. Puis il m'est sympathique, et je ne voudrais pas qu'il pensât que nous nous sommes joués de lui. » Devant la glace, retirant les épingles de ses cheveux, Madame Jacquemin songeait. « Sais-tu à quoi je pense ? » dit-elle. « Marthe s'est beaucoup développée depuis quelque temps. Elle est allée davantage dans le monde, et le carnaval l'a rendue plus femme. Elle a une autre tournure d'esprit, cherche à se montrer gracieuse. Tu ne trouves pas ?» Du fond de l'alcôve, M. Jacquemin répondit un « oui » vague. « Et je m'imagine, » continua-t-elle plus bas, « que si Marthe avait affaire un choix en ce moment, c'est Johannes Clairin qu'elle préférerait. » Et comme se parlant à elle-même, elle ajouta « un bon et brave garçon, vraiment. Et puis, la famille est si bien posée, et il y aura de la fortune. » Le lendemain matin, en se rendant à son magasin, M. Jacquemin se demandait où il prendrait des renseignements sur la famille de son commis. Une dévideuse, qu'il rencontra dans l'escalier, chargée d'une balle de roquet, le fit penser à Pelosson, qu'il savait très bavard et qui se laisserait facilement tirer les vers du nez. Quand il eut dépouillé son courrier, il entra au service. Pellegrin faisait sa ronde. Eugène était en course. Pelosson restait seul, près du poêle, faisant sécher son mouchoir. Il se leva précipitamment, roula sur ses jambes courtes d'homme obèse et, la mine obséquieuse, soulevant sa casquette luisante, attendit que M. Jacquemin daigna lui parler. « Pressez vos dévideuses, Pelosson. En ce moment, toutes nos commissions sont urgentes. Pellegrin n'y est pas ?» Pelosson ouvrit de grands yeux. Le patron avait-il oublié que Pellegrin était dehors tous les matins ?«
C'est que, » reprit M. Jacquemin, comme se parlant à lui-même, « j'aurais quelque chose à faire dire tout de suite à sa mère, et je ne connais pas son adresse. »«
Mais, monsieur, je puis l'indiquer, » dit Pelosson précipitamment. Il y avait longtemps que la langue lui démangeait. L'occasion était trop belle pour qu'il la laisse échapper. Il s'empressa de dire ce qu'il savait sur le compte d'un camarade qui le prenait de haut avec lui. La mère de Pellegrin était marchande d'herbe, rue Vieille-Monnaie, à l'angle de la rue Coisevox. Une toute petite boutique qui ne travaillait guère. La pauvre vieille était seule pour faire son petit commerce, et depuis que son fils ne demeurait plus avec elle, depuis qu'il s'était mis chez lui et était devenu un monsieur, la mère traînait misère, devenait infirme et recevait des secours du bureau de bienfaisance. Pelosson parlait du ton le plus naturel, sans paraître critiquer son collègue. Il avait pris un air naïf qui dissimulait sa rancune. Mais à mesure qu'il racontait, il voyait, dans les yeux du patron, une expression mal contenue, d'étonnement d'abord, puis de dégoût. Il avait frappé juste. Évidemment, le patron voulait savoir autre chose que l'adresse de la vieille femme. Quand M. Jacquemin eut appris ce qu'il voulait, il interrompit le verbiage de Pelosson. « Je vous remercie. À l'angle de la rue Coisevox, m'avez-vous dit ?»« Oui, monsieur, mais j'ai peut-être tort de vous raconter tout ça.
Hein, il est certain que les détails que vous me donnez ne sont pas à la louange de Pellegrin. »«
Mon Dieu, monsieur, » reprit Pelosson du même ton naïf, « il ne faut pas lui jeter la pierre à ce garçon. Il a envie de faire son chemin comme les autres. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui font autrement sont rares. »
Une rougeur monta au front de M. Jacquemin. Il lui sembla que Pelosson faisait allusion à sa conduite à l'égard de son frère.
« C'est bien, » dit-il sèchement. « Occupez-vous d'activer le dévidage. »
Avec humeur, le fabricant s'enferma chez lui, s'assit à son bureau, mécontent de lui-même, et réfléchit. Comment s'était-il laissé abuser si longtemps par les dehors aimables de Pellegrin ? Lui, qui croyait savoir jusqu'au moindre détail ce qui se passait dans son magasin, avait donc pu ignorer la situation de celui dont il avait fait son bras droit. Il fallait que le gaillard fût singulièrement roué pour avoir su jouer son rôle avec tant d'habileté, et terriblement audacieux pour avoir osé, fils d'une marchande d'herbe, mauvais fils, demander la fille d'un des premiers fabricants de Lyon. Ah, il fallait que son ambition fût bien aveugle pour qu'il ne comprît pas ce qu'une semblable prétention avait de grotesque. Tout de suite, il voulait en finir. Et sans retard, contrôler pour plus de certitude les révélations du vieux commis. Brusquement, il prit son chapeau et descendit. À midi, lorsque Pellegrin rentra, Pelosson lui dit que le patron avait une commission pour sa mère.
« Pour ma mère ? C'est impossible ! Il ne la connaît pas !»
Il voulait savoir son adresse.
« Et alors ?» reprit Pellegrin suffoqué.
« Je la lui ai donnée, puisqu'il en avait besoin. »«
Parfait !»
Très troublé, Pellegrin tourna le dos. D'une main fiévreuse, prit sur la banque les livres des maîtres qui attendaient dans la cage et commença le service.
« Triple animal » grommela-t-il. « Tu me paieras ta bêtise !»
tout était perdu. Il avait espéré, à force d'habileté, dissimuler jusqu'au dernier moment la situation misérable de sa mère. Il avait cru pouvoir engager à tel point son patron qu'il lui devint impossible de repousser sa demande. Mais toutes ses combinaisons s'écroulaient. Monsieur Jacquemin allait tout savoir à l'instant. C'en était fait de ses rêves. Il avait donné de la trame à deux ouvriers et reçu 3 pièces, quand Eugène entra en coup de vent.
« Monsieur Pellegrin, le patron vous demande dans son cabinet. »
« J'y vais, » répondit-il froidement.
Il eut un frisson d'angoisse, mais, dominant son impression, il composa son visage et entra dans la vente. Assis devant son bureau, le fabricant examinait des échantillons de soie de Chine. Pellegrin tira la porte derrière lui. Le fabricant, par contenance, continuait à manier ses échantillons. Puis il les posa brusquement et, se tournant vers son employé, « Je vous ai promis, lui dit-il, de répondre au plus tôt à la demande que vous m'avez faite. Je tiens ma promesse. Dès hier soir, j'ai fait part à ma femme de votre démarche.
Vous savez que Madame Jacquemin vous a toujours accueilli avec bonté.
Mais elle trouve Marthe beaucoup trop jeune pour que nous puissions songer à la marier maintenant. Et je suis tout à fait de son avis. » Il fit une pause. Pellegrin le regardait dans les yeux, cherchant à lire sa pensée. Monsieur Jacquemin reprit avec embarras.
« Le mariage est une affaire trop sérieuse. On ne doit pas l'entreprendre à la légère. Nous entendons que notre fille, quand elle voudra se marier, soit en état de choisir avec plein discernement et en toute liberté. Me permettez-vous, monsieur, de vous demander si Mademoiselle Marthe a été instruite de ma démarche ?
Nous n'avons pas jugé à propos de la lui faire connaître, pour les raisons que je viens de vous donner. » Après une courte hésitation, Pellegrin devint plus pressant. « Dois-je considérer cette réponse comme une fin de non-recevoir définitive, ou m'est-il permis d'espérer ?» Les deux hommes se regardèrent en face. Monsieur Jacquemin répondit d'un ton paternel.
« Mon cher Pellegrin, vous savez que je n'ai jamais eu qu'à me louer de votre travail. Pour vous le prouver, j'ai résolu de vous augmenter de 200 francs. À partir du mois prochain, vos appointements courront à raison de 1800 francs par an. Mais, puisque vous m'obligez à tout dire, les renseignements qui m'ont été fournis sur votre conduite à l'égard de votre mère sont peu satisfaisants. Cette pauvre femme est dans le besoin et vous l'abandonnez. Mon devoir de père m'interdirait de présenter à ma fille un garçon qui s'est montré dur pour sa mère. » À ces mots, Pellegrin pâlit horriblement. Les lèvres serrées, il eut un rire mauvais. La partie était perdue maintenant. Il n'avait plus rien à ménager. Peu lui importait l'appointement qu'on lui offrait. Il trouverait partout à vivre de son travail. La colère lui montait à la gorge et l'étouffait. Il avait besoin de parler, de crier, d'injurier. Il éprouvait une envie de se venger de ses longues privations, de son labeur perdu, de son ambition déçue, de la trahison de Pelosson, de ses propres maladresses. Pourtant, il voulut encore se contenir et insinua méchamment.
« Je m'étonne, monsieur, que vous invoquiez contre moi un semblable grief. Ne connaissez-vous pas des hommes, aussi mal nés que moi, qui ont rompu volontairement avec leur famille ? Et en sont-ils moins considérés ?»
Sa voix était changée. Ses paroles sortaient de ses lèvres avec un sifflement. Monsieur Jacquemin très calme, l'examina. C'était la première fois que Pellegrin se montrait insolent avec lui. Il eut un mouvement de compassion.
« Voyons, » dit-il, « retirez-vous. Le dépit vous égare. »
Mais cette pitié ne fit qu'exaspérer l'orgueil de Pellegrin.
« Non, le dépit ne m'égare pas, et vos prétextes ne me trompent pas non plus. Pourquoi ne voulez-vous pas de moi? Je vais vous le dire. Ce ne peut être parce que j'ai quitté ma mère, car vous avez vous-même abandonné votre famille, qui vous faisait aussi peu d'honneur. À cet égard, je crois, votre conduite et la mienne se valent. »
Cette fois, M. Jacquemin bondit, et le sang au visage.
« Sortez !» dit-il. « Sortez donc !»
Mais Pellegrin était lancé. Il dirait tout ce qu'il avait sur le cœur.
« Oui, continua-t-il, c'est uniquement parce que je suis pauvre et que je n'ai qu'un avenir précaire à offrir que vous me repoussez. Comme on oublie vite, fils d'ouvrier, vous l'étiez comme moi. Ah, il est vrai que vous aviez eu l'heureuse chance de vous créer une position avant votre mariage. Mais qui sait si je n'y parviendrai pas moi-même en cherchant fortune ailleurs, au lieu de me sacrifier à vos propres intérêts.
Vous étiez libre, je ne vous ai pas retenu malgré vous.
Ah, c'est ainsi que vous reconnaissez mes longs services, mon dévouement de tous les instants.
Eh bien, s'écria-t-il violemment, prenez-moi tout.
Je ne serai pas l'employé de votre gendre, de quelque Johannes Clairin, sot et riche.
Non, jamais. Veuillez me faire mon compte, que je parte.
Se dominant, M. Jacquemin allait essayer de le retenir. Après tout, c'était un bon employé qu'il serait difficile de remplacer.
« Vous perdez la tête, malheureux !»
s'exclama-t-il. Mais Pellegrin ne l'écoutait plus. Il sortit brusquement, heurta Eugène, qui était aux écoutes, le chassa d'un coup de pied, rageusement, et se dirigea vers le service. Alors, M. Jacquemin prépara son compte. On était au 27. Il manquait 3 jours pour que le mois fût complet. Le fabricant voulut faire preuve de générosité en comptant le mois entier, soit 133 francs 35 centimes. Il posa cet argent sur le bord du bureau et attendit.
Hein, le malheureux garçon,
répétait-il avec pitié. Pellegrin réunit les objets qui lui appartenaient. Bientôt, il reparut, farouche, le chapeau sur la tête. Silencieusement, il prit l'argent et le compta.
« J'ai 27 journées à 4 francs 44 centimes, dit-il. Ça fait 118 francs 90. Je n'ai pas besoin de votre aumône. Vous n'avez pour moi que de l'ingratitude. Ayez au moins le courage de votre opinion. »
Et, à la volée, il lança à travers le cabinet les 14 francs 45 qui faisaient l'excédent de son compte. Les pièces d'argent et de cuivre allèrent frapper le mur, retombèrent sur le plancher et s'éparpillèrent en roulant. Puis il sortit, sombre, haineux. Sous le coup de l'affront qui le souffletait, M. Jacquemin s'était relevé, prêt à s'élancer sur lui. Mais Pellegrin lui jeta la porte au visage et s'enfuit.
« Misérable !» s'écria le fabricant. « Ah, le misérable !»
Au bout du corridor, la silhouette de Pelosson se dessina.
« Ah oui, monsieur, un misérable. En voilà un qui a su vous tromper. Heureusement que j'étais là pour vous crier gare. Ah, ce sont les ouvriers qui vont être contents de son départ. » « Personne ne le regrettera, soyez-en sûr. »«
Assez ! Taisez-vous ! » ordonna M. Jacquemin. « Vous avez autant de jalousie qu'il a d'orgueil. »